Soudain, il bascula en avant et les cris de la foule s'étranglèrent. On vit la croix osciller, s'abattre lentement sur lui, puis une rafale la redressa. Médusé, le public fixait la scène dans un silence incrédule. Au lieu de tomber, la croix demeurait inclinée au-dessus de Jimmy, en suspens, comme si deux vents contraires empêchaient sa chute. La stupeur était devenue un moment de pur émerveillement qui dura 4 ou 5 secondes. Jimmy fit une tentative pour se relever et la croix s'affaissa sur le côté, se brisa en deux. Alors une voix tonna, tombant du ciel.
« Mindanao !»
Des hurlements retentirent. Les gens se dressèrent.
« Mindanao, République islamique !»
clamèrent les haut-parleurs tout autour du site. La peur des snipers et des kamikazes déclencha immédiatement la panique. Les spectateurs évacuèrent les tribunes, poussant, renversant, piétinant les plus faibles, tandis que le service d'ordre maîtrisait les autonomistes qui s'étaient emparés de la régie son. Un projecteur explosa. Un autre. Tous les cadreurs abandonnèrent leurs caméras, courant vers la tour vitrée d'où la production lançait des appels au calme, recouverts par les cris d'épouvante. Débordés par la foule qui détalait en tous sens, la police et l'armée braillaient en vain qu'elles avaient la situation en main. Bousculant figurants et techniciens qui désertaient leur poste, je m'étais précipité sur la colline avec Kim. Abandonné entre deux morceaux de sa croix, Jimmy avait perdu connaissance. Deux brancardiers nous rejoignirent avec une civière, demandèrent à la production l'autorisation d'enlever le corps. Aucune réponse dans leurs oreillettes. La production avait autre chose à faire avec tous les problèmes contractuels, publicitaires et financiers que poserait l'arrêt de la retransmission planétaire. Dans l'indifférence générale, on transporta Jimmy vers un poste de secours. Là, parmi les blessés, il revint à lui et céda son tour. Il nous rassurait, disait qu'il avait le temps. Les infirmières lui donnèrent des antalgiques, ôtèrent sans ménagement la tunique de lin collée par le sang, refirent les pansements. Pendant qu'on le transfusait, j'enlevais, avec une pince à épiler, la vingtaine d'épines qui s'étaient incrustées dans son crâne. Des rumeurs d'émeutes résonnaient toujours à l'extérieur. J'avais redouté que les croyants fanatiques ne se jettent sur Jimmy, le portent au nu, le harcèlent pour un miracle. Mais l'interruption du spectacle avait enlevé à l'acteur le bénéfice du rôle. La peur était plus forte que la foi. Le salut passait par la fuite, et plus personne ne s'intéressait à celui qui, une demi-heure auparavant, portait l'espoir de l'humanité. Jésus gracié n'avait pas de sens. Tout n'était qu'imposture et trucage, publicité mensongère. Le danger écarté, la frustration et la colère avaient succédé à la panique et la ferveur laissait place au lynchage. Du poste de secours, on entendait la foule assiéger la tour de la production, exigeant qu'on lui rembourse les places. Kim coupa les cheveux de Jimmy tandis que je lui rasais la barbe et on l'escamota incognito dans une ambulance. Sanglé sur sa civière, abruti par l'écalement, il nous souriait, nos mains dans les siennes, replongeait puis refaisait surface. On arrivait en vue de l'aéroport quand il prononça son premier mot. L'oreille collée contre sa bouche, j'entendis « Patmos ». Patmos ? Le sourire tira mes joues, rencontra mes larmes. Je me tournai vers Kim. Elle soupira, confirma d'un air fatigué. Patmos, c'est la grotte où Saint Jean a écrit l'Apocalypse. J'évitais de la contredire, mais pour Jimmy et moi, ça signifiait autre chose. Je lui fis remarquer, délicatement, qu'un rapatriement sanitaire aux États-Unis n'était peut-être pas très opportun. Le temps que les tensions retombent, il vaudrait mieux se réfugier en Europe, dans un endroit discret. Elle nous regarda. Jimmy acquiesça d'un plissement de paupières. Elle rappela l'ambassade et modifia notre destination.